La Voix de Lille. L'Europe, financeur majoritaire des projets du Pays de Lille. Une émission Radio Libre en Périgord présentée par Yanis Sanchofort, étudiant à la MFR de Périgueux et apprenti à Radio Libre en Périgord. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, Yanis Sanchofort au micro de Radio Libre en Périgord. Ma voix peut être familière pour certains, je suis apprenti en alternance à Radio Libre en Périgord et étudiant en BTS, développement animation des projets territoriaux à la MFR de Périgueux. Dans le cadre de cette nouvelle émission, je vais vous parler de l'importance des fonds européens sur les différents projets du Pays de Lille. Pour cette première émission, j'ai pu rencontrer Sarah Guidelman, chargée des fonds européens au Pays de Lille, Morgane Autier, directrice du Pays de Lille, et Sabrina Chadela, chargée du PAT au Pays de Lille. Déjà, avant de commencer, un peu de contexte. C'est où le Pays de Lille en Périgord ? Eh bien, le Pays de Lille en Périgord, c'est 4 PCI ou établissements publics de coopération intercommunale. En l'occurrence, le Pays de Lille englobe le Grand Périgueux, la CCIVS ou Communauté de communes Île-Verne-Salambre, la CCICP ou Communauté de communes Île-Cramps en Périgord et la CCIDL ou Communauté de communes Île-Double-Landais. Le Pays de Lille, c'est 93 communes pour 148 735 habitants en 2020. Cela représente un tiers de la population du département sur 1943 km², soit un sixième de la superficie départementale. Le Pays de Lille en Périgord est représenté sous forme de syndicats mixtes et on peut se demander quelles sont ses missions. Laissons donc Morgane Autier, directrice du Pays de Lille en Périgord, nous expliquer.
Alors nous avons 8 missions au sein du Pays de Lille. Principalement, il y a les fonds européens. Nous avons le PAT, donc le projet alimentaire territorial. Nous avons tout le volet dédié à l'habitat, donc lié à la rénovation énergétique et à l'autonomie, que ce soit des particuliers ou des propriétaires bailleurs. Donc il y a deux chargés de mission sur cette mission-là. Nous avons le volet économie, où nous aidons des artisans et des commerçants à se développer. Donc des artisans et des commerçants du territoire du Pays de Lille. Nous avons une nouvelle mission qui est arrivée l'année dernière, en fin d'année, sur la mobilité. On porte un schéma directeur des mobilités actives. Nous avons le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale. Et nous avons une chargée de mission, enfin, sur tout ce qui est lié un peu au contrat, aux politiques un peu plus contractuelles que nous avons avec l'État et la région. Donc à travers le CRTE, donc le contrat pour la réussite de la transition écologique, et le contrat d'appoint et de transition avec la région. Et après, voilà, nous avons une chargée de mission, une assistante de direction qui nous fait toute la partie comptabilité et RH.
L'année 2026 venant tout juste de commencer, on peut se demander quelles sont les priorités du pays pour cette année.
Il y en a plusieurs. Il y a avant tout, les élections municipales. On va avoir un réel travail de nous présenter peut-être aux nouveaux élus qui seront présents dans les nouvelles collectivités. Et qui va de pair aussi avec une réelle communication pour nous rendre un peu plus légitimes sur le territoire. Et faire en sorte que le pays soit bien visible auprès de nos collectivités et communes qui puissent nous solliciter dans tous leurs projets de développement. Après, chaque mission a aussi des objectifs sur leur année qui leur sont propres.
Sabrina Chadela nous donne son avis.
Sur les missions 2026, effectivement, il y a tout ce projet de réacculturation, en fait, des thématiques et des enjeux qui sont liés à nos propres projets aux nouveaux élus. Et moi, dans ce cadre-là, en fait, j'ai choisi de faire un bilan des actions qui ont été faites pour pouvoir permettre aux élus, de se dire, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on améliore, et selon leurs objectifs.
De manière globale, c'est surtout de la continuité au sein des différentes missions.
Parce que sur les autres missions, on est sur de la continuité, en fait, même pour nous, pour 2026. Par exemple, l'année 2026 va être aussi la réalisation du schéma directeur des mobilités actives. Donc on sait qu'on a cette échéance-là, mais pour le reste, on est sur de la continuité, principalement.
Au moment de l'enregistrement de cette émission, le rapport d'activité 2025 du pays, présentant les actions et moments clés de l'an passé, n'avait pas été publié. J'en ai donc profité pour poser la question suivante. Quels ont été les moments clés de 2025 ?
Y a beaucoup de choses. Je dirais déjà, on a été marqué par des interruptions liées à la mission Habitat, donc avec tout le MaPrimeRénov qui a été un peu chahuté, donc en laissant des propriétaires dans l'attente de réponse. 2025 a été l'année où on a travaillé, pour ma part, sur le schéma de cohérence territoriale, donc le SCOT. qui a été bon approuvé en début, enfin ce mois de janvier 2026, mais bon, tout un travail a été mené sur 2025. On a du coup lancé le schéma directeur des mobilités actives où on a fait une première réunion en décembre, mais bon, voilà, qui est plutôt elle repoussée sur 2026, enfin qui continue jusqu'en 2026. Donc on est bien sur de petites continuités, et après je pense qu'avec le PAT aussi a fait quand même un beau bilan sur cette année de 2025.
Ouais, je pense que l'événement marquant sur 2025, ça a été les formations et la sensibilisation qui ont été faites auprès des animateurs périscolaires. On sait que c'est eux qui passent beaucoup de temps avec les enfants, donc les mettre dans la boucle de ce qui est fait par les cuisiniers, par les producteurs, et l'intérêt en fait de consommer des produits bio locaux pour les enfants était hyper important. Ça s'est très bien passé, on a fait intervenir l'association pour les enfants du Pays de Bellem, donc ils ont vraiment sensibilisé, et on sent qu'il y a des évolutions parce qu'ils, voilà, ils veulent mettre en place des projets qui sont liés à l'alimentation maintenant avec les enfants.
Le Pays de Lille a plusieurs préoccupations actuellement, avec notamment un schéma directeur des mobilités actives, dont l'enquête a été débutée au début de cette année, mais également le PAT, et j'en ai profité pour demander à la chargée du PAT de nous expliquer en quoi il consiste.
Alors, le projet alimentaire territorial, il a pour objectif en fait de relocaliser à la fois l'agriculture et l'alimentation sur le territoire. Il se décline en fait sous plusieurs axes. L'idée, c'est d'aller du foncier à l'assiette. Donc on a un axe autour de la mobilisation du foncier et de du renouvellement des générations de producteurs, donc faciliter la transmission et l'installation de producteurs. On a un axe sur le volet logistique, approvisionnement, comment faire en sorte que ces produits locaux de qualité soient faciles d'accès en restauration collective ou chez les particuliers. On a un axe autour de la sensibilisation, comment faire en sorte que tout le monde aille vers ces produits locaux, en fait, comment dédiaboliser certaines choses et comment donner envie. Et le dernier axe, c'est un axe autour de la justice sociale, comment faire en sorte que même les publics précaires puissent avoir accès à ces produits-là. Du coup, les objectifs, je les ai rapidement évoqués tout à l'heure. Ils ont été fixés suite au diagnostic. Le diagnostic, il a été finalisé en 2019. On a enchaîné avec des groupes de travail, donc en fonction de ces objectifs-là, les groupes de travail qui étaient thématisés sur chaque objectif ont permis en fait d'établir des actions. Donc on a une quarantaine d'actions qui ont été établies dès 2021, et depuis on les met en place.
Le Pays de Lille a plusieurs projets en cours, avec notamment un contrat pour la réussite de la transition écologique, un schéma de cohérence territoriale. Tout ça, où ça en est globalement ?
Alors, si je parle par rapport au SCOT, on en est à la phase où on a fait une modification simplifiée entre 2024 et jusqu'à présent pour répondre à la loi climat et résilience. Voilà, on s'est mis en compatibilité avec les chiffres du SRADET de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a été sur une vraie phase où il a fallu de nouveau un peu concerter les élus et après informer aussi le grand public de notre démarche. Et donc on en est arrivé à la presque fin, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Donc on l'a fait valider en janvier, janvier 2026, le 19, en comité syndical. Et donc demain, mais voilà, ça va être de faire vivre ce document-là auprès des élus, enfin continuer, et puis voir comment il grandit tout seul maintenant. Concernant le CRTE, on est vraiment sur une politique où l'État souhaitait souhaite connaître un peu les projets de transition écologique énergétique. Mais c'est un peu flou pour nous, j'ai envie de dire, puisque il y a quand même aussi beaucoup de changements qui se sont opérés ces deux dernières années. Et donc voilà, on essaie à notre niveau, voilà, de savoir ce qui se passe sur notre territoire, ce qui n'est pas toujours une mission très évidente. Mais voilà, on essaie en tout cas de travailler de pair avec la préfecture sur ce sujet. Et on attend de voir comment vont évoluer les CRTE dans les prochaines années à venir.
Super. Est-ce que vous avez des choses que vous pensez qui seraient importantes à rajouter pour...
Eh ben, je vais parler des actions qui ont été financées du coup en lien avec les fonds européens, donc c'est les fonds européens qui ont permis de faire aboutir ces actions. Donc je pense notamment à l'action Défi Foyer Alimentation Positive, où là l'objectif a été d'accompagner une trentaine de foyers vers une alimentation locale de qualité sans impacter leur budget. Donc ils avaient des relevés d'achat à faire 15 jours avant le premier atelier. Ensuite, ils ont suivi environ 6 ateliers, donc des ateliers autour de la cuisine, de l'approvisionnement, des visites de ferme, des visites de points de vente. Et une fois ces ateliers faits, ils ont renouvelé en fait leurs achats et enregistré. En fait, on s'est aperçu qu'ils avaient multiplié par deux les achats faits en produits locaux et du coup diminué par deux leurs achats en GMS. Donc il y avait un vrai impact. Le fait qu'ils soient sur la durée nous a montré aussi que les changements sont inscrits dans leur façon de fonctionner. Donc c'est hyper important. Ça a beaucoup d'impact sur le territoire. Et l'autre action qui est aussi intéressante, c'est que, enfin, elle s'est développée aussi en lien avec ce défi. Beaucoup de gens nous disaient, mais en fait, moi, je veux bien, mais je sais pas où trouver des produits locaux. Donc, en fait, on a mis en place un site internet qui s'appelle ilmangelocal.fr, où l'idée, c'est de recenser à la fois les initiatives liées à l'agriculture et l'alimentation et les points de vente, pour permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Donc il y a aussi des recettes qui peuvent donner des idées.
Maintenant que nous avons compris un peu le rôle et les objectifs du Pays de Lille, nous allons nous concentrer sur la mission européenne représentée par Sarah Guidelman, chargée des fonds européens. Elle nous présente elle-même sa fonction et ses missions au sein du Pays de Lille.
Je suis chargée de mission des fonds européens depuis 6 ans et demi au pays. Alors moi, mon rôle, il est lié à la mission européenne. Donc on a des programmes d'une durée de 6 ans. Donc le programme actuel, c'est 2021-2027. Et en 2028, on est encore dans l'inconnu pour la prochaine programmation. Donc mon rôle au pays, c'est d'animer la mission européenne, donc le volet territorial des fonds européens. Il s'agit d'un dispositif de l'Europe qui permet de soutenir des projets portés par différents porteurs à l'échelle du pays. Et mon rôle, en fait, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets de l'idée à la réalisation du projet et tout ça dans le but d'obtenir un soutien financier de l'Europe.
Les fonds européens, c'est une démarche engagée par l'Union européenne pour soutenir le développement économique, social et territorial de ses États membres et de leur région. Dans le Pays de Lille en Périgord, les deux fonds utilisés sont le fonds FEDER, Fonds européen de développement régional, et FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. Au-delà d'une seule lettre, quelle est la différence ?
Alors, effectivement, il y a le fonds FEDER, le fonds FEADER. Donc, le fonds FEDER, il correspond au développement des territoires. Il soutient généralement des projets d'investissement lourds, des travaux, alors que le FEADER est plutôt lié à la politique agricole commune. Donc, on est sur des projets un peu plus petits, sur des projets en lien avec le monde agricole.
Le fonds FEDER dépend d'une initiative européenne intitulée le programme LEADER, Liaison entre action de développement de l'économie rurale, qui vise à soutenir le développement local dans les zones rurales en impliquant directement les acteurs locaux, élus, associations, entreprises, citoyens, dans la conception et la mise en œuvre de projets. Le fonds FEDER a été créé en 1975 pour réduire les déséquilibres régionaux au sein de l'Union européenne. Il s'inscrit dans la volonté de renforcer la cohésion économique et sociale, formalisée par l'acte unique européen de 1986, qui a aussi consolidé les fonds structurels. Le fonds FEDER, lui, trouve ses racines dans la PAC, politique agricole commune, lancée en 1962. Cependant, il a été officiellement créé en 2007 pour soutenir spécifiquement le développement rural en complément des autres fonds structurels. Quant au programme LEADER, il a été lancé en 1991 comme une initiative innovante du FEDER, alors sous forme de programme pilote. Son objectif était de tester une approche locale et ascendante pour dynamiser les zones rurales. En 2007, LEADER a été pleinement intégré au FEDER, devenant un axe central de ce fonds. Les fonds européens sont délégués par la région au Pays de Lille, qui choisit son approche.
Alors, l'enveloppe de fonds européens, elle est déléguée par la région, qui est autorité de gestion des fonds européens. La région dispose d'enveloppes de fonds européens qu'elle a déléguées à des territoires tels que les pays. Et les pays sont en charge d'animer les dispositifs au niveau local. La région, en tant qu'autorité de gestion, emploie également des instructeurs dédiés au territoire afin de faciliter le montage des dossiers et de sécuriser toute l'instruction qui peut être faite par la suite par les services de la région.
L'approche du pays de Lille est la suivante. Afin de recevoir des fonds européens pour un projet, les porteurs de celui-ci prennent contact en premier lieu avec une instance délibérante intitulée le GAL, groupe d'action locale dont nous parlerons plus en détail dans la prochaine émission. Si le projet correspond à l'une des 8 fiches actions, une thématique par fiche, avec notamment l'intermodalité, la production et consommation locale, l'offre touristique, les équipements et aménagements structurants et éco-responsables, etc., le porteur de projet dépose une prédemande avec l'accompagnement du GAL. Ensuite, il vient présenter son projet devant les membres du groupe d'action locale. Si l'avis est favorable, le porteur de projet peut déposer une demande d'aide. Le service instructeur de la région étudie les pièces. Le projet passe une deuxième fois devant le groupe d'action locale pour être sélectionné et passe ensuite en instance de consultation des partenaires de la région. Enfin, une convention est établie entre le porteur de projet et la région, et une fois le projet finalisé, le porteur dépose une demande de paiement accompagnée de pièces justificatives pour effectuer le versement des subventions. Vous l'aurez compris, la partie la plus contraignante pour les porteurs de projet, c'est le versement des subventions. Comme il est effectué après le projet, certains acteurs du territoire sont contraints de ne pas faire appel à ces fonds, nécessitant un apport en amont. Sarah nous parle des différents types de projets qu'elle a pu recevoir.
Alors, on recense de multiples projets au sein de la programmation actuelle, des projets qui peuvent être portés par des collectivités ou bien par des associations ou même des entreprises. Donc, on a plusieurs profils de porteurs de projets dans notre programmation. Au niveau des projets, on a également une grande diversité de projets, du petit projet qui peut être à dimension culturelle, à dimension sociale, à des projets de plus grande envergure, comme la réalisation de travaux conséquents pour la création d'un commerce, par exemple. Dans le cadre de la programmation, on intervient sur différentes thématiques. Donc, on peut intervenir, on peut soutenir des projets qui sont attraits aux nouvelles mobilités, à l'intermodalité, au tourisme, à la culture, à l'environnement, à la production, à la consommation locale, aux lieux hybrides, au commerce, aux services. Donc on est sur un panel d'interventions large, ce qui permet aussi de soutenir différents projets avec différentes ambitions. Par exemple, sur les équipements et aménagements structurants éco-responsables du pays, le silo, le pôle ESS du Grand Périgueux a été soutenu. Un autre exemple que je peux citer, c'est celui de l'association UFOLEP qui porte un projet de véhicule podium pour réaliser de la formation au premier secours à l'échelle du pays. Et un autre projet que je pourrais citer, c'est celui d'une commune qui a porté la rénovation d'une gabarre pour maintenir des activités de promenade sur la rivière.
Elle tient également à rassurer les porteurs de projets hésitants à engager la démarche.
Dans un premier temps, l'idéal est de me contacter au plus tôt pour définir le projet, voir comment il peut rentrer dans la stratégie des fonds européens qui est développée à l'échelle du pays, pour identifier les différents partenaires qui peuvent être aussi associés au projet, des partenaires financiers ou alors des partenaires d'accompagnement qui peuvent aider le porteur dans tout son processus de mise en œuvre du projet. Et après ces différents échanges entre partenaires, et une fois qu'on a identifié le meilleur accompagnement possible, le porteur de projet peut engager des démarches pour obtenir une subvention. Donc il y a effectivement tout un processus propre à chaque partenaire. Au niveau des fonds européens, on sait tous qu'il est long, mais ce n'est pas compliqué, parce que l'accompagnement est suivi et permet aux porteurs d'identifier chaque étape au fil de l'avancement de la procédure. J'accompagne du mieux que je peux. On a près de 60 projets qui sont dans la programmation. Donc un certain nombre d'échanges s'établit en fonction des étapes et de l'avancement de chacun. Mais oui, j'essaye de suivre au mieux chaque porteur de projet en fonction de son avancement aussi.
Au moment d'enregistrer cette émission, j'ai demandé à Sarah de nous parler de quelques actualités en cours au niveau du pays et des fonds européens.
Alors, sur la programmation actuelle, nous sommes à un stade d'avancement de mi-programmation. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'ensemble des crédits qui avaient été alloués au pays est à ce jour fléché vers des opérations. Mais néanmoins, si des projets ou des porteurs nous écoutent, il est possible de prendre contact avec moi pour échanger sur toute opération qui pourrait être menée. Et je les accompagnerai dans leur démarche sans problème. Ensuite, au niveau de la programmation à venir, donc celle de 2028-2034, pour l'instant, nous sommes dans une zone de brouillard. Les négociations sont en cours au niveau des États membres et de l'Europe. Et pour l'heure, aucune décision n'est prise quant au budget de l'Union européenne pour cette programmation-là et quant aux fonds qui seront décidés.
Cette émission touche maintenant à sa fin. La prochaine émission abordera le groupe d'action locale en compagnie de Nice Fouchier, président du GAL. En attendant, je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de Radio Libre en Périgord. À bientôt dans La Voix de Lille. C'était La Voix de Lille. L'Europe, financeur majoritaire des projets du Pays de Lille. Une émission Radio Libre en Périgord présentée par Yannis Sanchofort, étudiant à la MFR de Périgueux et apprenti à Radio Libre en Périgord.